Des pas dans la neige de Jeanne Marais, chapitre 1er. Au dehors, il faisait un temps abominable. Une tourmente de neige, un vent qui hurlait dans les corridors sonores du vieux château, des voix sinistres de tempête venant des grands arbres ployés, dont les branches, chargées de neige, cassaient avec un bruit de détonation. À travers les nuages qui se pourchassaient, une lueur blafarde de lune rendait l'horreur de cette nuit dans les montagnes une chose visible. Le vieux castel des Chabriards, une grande bâtisse irrégulière construite à diverses reprises et qui n'avait gardé de son premier état qu'une haute tour superbe, défiait le vent, la neige, les nuages et semblait fantasque, comme un château spectral, sous le vague clair de lune. Le château de la Tour, comme on l'appelait dans le pays, était situé à peu de distance de Luchon, juché sur la montagne, à quelques centaines de mètres de la route forestière qui monte à Superbagnères. Et on eût dit que ce château, si près d'une station d'eau fréquentée, était à 100 lieues de toute civilisation, perdu dans les arbres, dominant son torrent, un torrent charmant et tout doux en été, devenu terrible par ce temps de neige ou de pluie et de vent. Dans ce vieux castel, qui par endroits tombait en ruine, immense et mal commode, son propriétaire actuel s'obstinait à vivre, à vivoter plutôt. Monsieur Chabriard, fils d'un industriel enrichi, qui avait acheté le château à son ancien possesseur, n'avait pas suivi la carrière paternelle. Maître d'une belle fortune, après une jeunesse oisive et quelque peu tapageuse, il s'était pris sur le tard d'une grande passion pour la science. Il vivait entouré de gros bouquins qu'il déchiffrait patiemment et faisait des expériences chimiques qui d'ordinaire tournaient assez mal ou n'aboutissaient pas. Cela était devenu manie de malade car M. Chabriard traînait depuis des années une maladie du foie qui lentement le minait. En dehors de sa saison réglementaire de Vichy, il passait tout son temps enfermé dans son triste château, se refusant à voir ses connaissances de Paris en tournée dans les Pyrénées, n'admettant auprès de lui que le médecin de Luchon. Il avait choisi celui-ci parce qu'il était du pays et y restait, hiver comme été. Ce médecin était un homme, jeune encore, un veuf qui s'appelait Bardière. Mais M. Chabriard, en se condamnant à une solitude sauvage, y condamnait par là même sa jeune femme. Madame Chabriard, une Parisienne de naissance, d'éducation, de nature surtout, se révoltait contre cette réclusion, mais elle se révoltait en vain. Elle se heurtait à une volonté de faire. M. Chabriard ne faisait pas de scène. Il laissait s'exhaler en colère furieuse, en plainte, en pleurs, la résistance de sa femme. Mais jamais il ne cédait. Il restait froid, impassible. Il disait « Je veux ». Il faisait peur à cette femme qui pourtant n'était pas peureuse. Elle se sentait enfermée, loin de tout secours, avec un maniaque qui pourrait bien un jour devenir un fou. Parfois, la nuit, dans sa chambre, séparée de la chambre de son mari par un long couloir, elle était prise de peurs insensées. Elle entendait des pas, elle croyait distinguer dans le grand silence de la nuit la respiration de cet homme qui la guettait, qui la soupçonnait, qui la haïssait. Car ce mariage, fait par des tiers, mariage soi-disant de convenance, en était arrivé à cela, une haine sourde de ces deux êtres, condamnés à vivre côte à côte. Une chose la protégeait contre ce danger qu'elle sentait autour d'elle, qui lui glaçait le sang d'effroi. Elle avait un enfant, une petite fille de 7 ans, une jolie blondine qui riait et chantait, qui n'avait pas peur, elle, qui s'amusait dans les grands corridors, dans les salles désertes, et les remplissait de son charmant tapage, qui se jetait dans les bras de son père et lui tirait la barbe, que ce père adorait, qu'il voulait toujours avoir auprès de lui. Et tandis que la tempête mugissait toujours au dehors, que la neige tombait, mais plus régulièrement maintenant, en gros flocons pressés, le vent étant moins fort, à l'intérieur il faisait chaud et bon. Madame Chabriard avait choisi pour son salon une pièce moins énorme que les autres, et là, elle avait réussi à se faire un joli coin, qui vaguement rappelait un salon de Paris. De lourdes draperies tombées maintenant devant les fenêtres cachaient la tempête, en assourdissaient le bruit. Plusieurs lampes éclairaient gaiement les meubles coquets, les divans bas, les coussins, le tapis bien moelleux. Sur les tables se trouvaient des journaux, des revues, les livres récents que la châtelaine se faisait envoyer. des photographies dans des cadres en pluche, de menus objets qu'aiment les jolies femmes. Un samovar, d'où s'échappait une vapeur blanchâtre, était placé auprès de la maîtresse de maison. Madame Chabrière n'aimait pas le thé, mais elle en faisait volontiers, car c'est une charmante occupation pour des mains bien blanches. Du reste, le docteur Bardière en prenait, lui. Monsieur Chabrière venait de passer par une crise aiguë de son mal, et le docteur était resté auprès de lui. Il avait, ce jour-là, dîné au château. Mais la crise semblait passée, et le docteur Bardière devait reprendre bientôt le chemin de Luchon. En attendant, il se chauffait les pieds devant les bûches qui flambaient, savourait lentement le thé que lui avait préparé la belle Madame Chabrière, causait avec celle-ci et jouait avec Aline, qui refusait d'aller se coucher. Cela faisait un délicieux tableau d'intérieur, bien calme, bien souriant, chaud de ton, égayé par les flambées du feu et la clarté douce des lampes. Madame Chabrière, âgée de 30 ans, avait été la beauté renommée de son petit cercle parisien, un cercle un peu restreint en somme, formé surtout d'artistes et de gens de lettres. Son père, écrivain assez connu, mourut sans laisser de fortune. Chabrière avait été fière d'épouser la plus jolie personne d'une petite société d'élite. Elle s'était résignée sans grand-peine à épouser un homme riche qu'elle n'aimait pas, qui avait 20 ans de plus qu'elle, et dont la santé commençait déjà à donner quelques inquiétudes. S'il avait été une fort jolie fille, elle était bien plus belle maintenant, dans tout l'épanouissement de l'âge. Grande, blonde, la figure énergique, un peu dure même, les yeux superbes, le corps souple, ferme, merveilleusement sculpté, elle aurait fait la joie des salons de Paris, et elle était condamnée à vivre en exilée au milieu des neiges, des torrents, dans un affreux repaire hanté, elle en était persuadée. Mais en ce moment, elle ne se plaignait pas. Elle s'occupait de sa fille qui ne tenait pas en place. Demain serait le jour de Noël, et pendant la nuit, Santa Claus descendrait par la cheminée pour apporter des jouets. C'était sa bonne, une Allemande, qui le lui avait dit, et Aline croyait tout ce que lui disait sa bonne, qui connaissait tant de jolies histoires. Elle ne voulait pas dormir. Elle resterait les yeux grands ouverts pendant toute la nuit, et elle le verrait bien venir, Santa Claus, même s'il était tout petit et s'il portait des chaussons pour ne pas faire de bruit. Seulement, ce qui la préoccupait beaucoup, c'était le mauvais temps. Peut-être aurait-il peur du vent et de la neige et ne viendrait-il pas. Et la petite langue de bavarder. Elle était si excitée que le docteur la happa au passage et, malgré sa résistance, la fit asseoir sur ses genoux. Aline, on ne savait pourquoi, n'aimait pas le docteur, qui pourtant lui faisait beaucoup d'avance. Tout le monde ne sait pas s'y prendre avec les enfants, et le docteur Bardière était de cela. Cependant, après un moment de résistance, Aline resta tranquille sur les genoux du jeune homme et semblait l'examiner avec beaucoup de sérieux. Le docteur était grand, maigre, très brun, avec une forte barbe noire. C'était un bel homme, en somme, mais un peu osseux, sans grâce, mal habillé aussi, un ours des Pyrénées, comme l'avait appelé Madame Chabrière, lorsqu'elle le vit pour la première fois. Il s'était quelque peu apprivoisé depuis, avait taillé sa barbe. Il soignait ses mains, et se sentait un peu honteux de ses vêtements faits par un tailleur du pays. Il n'était pas riche, le docteur, et il avait un enfant à élever, un gamin qu'il avait envoyé comme interne au lycée de Pau. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, Aline? Qu'est-ce que tu voudrais savoir ?»«
Je voudrais bien savoir s'il t'apportera quelque chose cette nuit, Santa Claus. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?»
À cette question d'enfant, le docteur se troubla légèrement et déposa la petite. Il y eut un regard très rapide échangé entre lui et la châtelaine.
« Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Aline, toi-même ? » fit le docteur en se levant et se mettant le dos contre le feu. Il était si grand ainsi qu'Aline, pour continuer l'examen de cette figure toute noire, dut lever sa petite tête, ce qu'elle fit restant plantée devant lui.
« Moi, je crois que non. »«
Pourquoi ça ? » ?»«
Parce que tu es trop grand et trop noir. »
Tu ferais peur à Santa Claus, qui est petit, petit et tout rond. Il ne fait des cadeaux qu'à des gens qui sont jolis et gentils, comme maman ou comme moi. »
Et la petite fille se jeta dans les bras de sa mère.
« Tu dis des bêtises, Aline. Va te coucher, mon enfant. Voilà 2 fois que Lisbeth vient te chercher. »
« Et si je te disais, moi, reprit le docteur, qu'il n'y a pas de Santa Claus et qu'on a bien tort de fourrer des tas d'histoires absurdes dans la tête d'enfants nerveux comme toi ?»«
Pas de Santa Claus ? Pas de Santa Claus ?»
Aline, les poings crispés, se mettait déjà en colère, ce qui lui arrivait parfois,
lorsque la porte du salon s'ouvrit et un vieux domestique parut. « Le cheval de monsieur le docteur est devant le perron. »«
C'est bon, Denis, j'y vais. »«
Pardon, monsieur le docteur, mais c'est qu'il fait bien mauvais. » Et le chemin d'ici, la route forestière, n'est guère visible sous la neige. Monsieur le docteur ferait bien mieux de coucher au château.
Bon, un vieux montagnard comme moi, mon brave Denis. Mais j'irai d'ici à Luchon les yeux fermés, et mon cheval aussi. Du reste, j'ai un malade à voir au village à la première heure demain.
Puis, se tournant vers Madame Chabriard, il lui dit en prenant congé d'elle.
Je viendrai tout de suite après cette première visite voir votre mari, madame. Mais cette nuit, je pense qu'il dormira tranquillement.
« Il n'est pas à prévoir que la crise reprenne. En tous les cas, vous sauriez ce qu'il y a à faire. »«
Allons, bonsoir.
Dors bien, ma petite ennemie, et ne crois pas trop à Santa Claus, tu sais. Quant à vous, Denis, allez vous coucher tranquillement. Vous en avez besoin ainsi que votre femme, après ces 3 jours d'alerte. Votre maître est sauvé, encore une fois. Il a une maladie qui dure parfois des 10-20 ans, on ne sait jamais. »
Denis accompagna le jeune médecin, le vit monter à cheval et s'en aller lentement dans la demi-obscurité de cette nuit de vague claire de lune. Le vent était presque tombé maintenant, et il neigeait si fort que les marques laissées par les fers du cheval disparurent bientôt sous une nouvelle couche. Denis grelotta, puis ferma la porte avec soin, et s'en alla se coucher comme le lui avait recommandé le docteur. Tant qu'avait duré la crise de monsieur, on n'avait pas beaucoup dormi au château, on se dédommagerait. La petite Aline, chaudement bordée dans son lit, ne dormait pourtant pas. Les paroles du docteur lui trottaient par la tête. Pas de Santa Claus? Elle savait bien qu'il mentait, le docteur. N'avait-elle pas encore la grande poupée? Il est vrai que depuis le temps, elle avait perdu une jambe et la tête. Que Santa Claus lui avait apportée l'an dernier, lorsqu'elle était toute petite? N'était-ce pas une preuve, cela? Et cependant, le doute est chose subtile. Il entre par les fissures de l'esprit et ne sort plus lorsqu'il est une fois entré. Aline croyait encore à Santa Claus, mais pour y croire tout à fait, elle aurait bien voulu le voir. Lisbeth lui avait dit que le petit homme ne descendait par la cheminée que sur le coup de minuit. Aline savait compter, et il n'était que 9 heures lorsqu'on l'avait couché. Elle avait donc près de 3 heures à rester éveillée si elle voulait surprendre l'arrivée de Santa Claus. Et c'est bien long, 3 heures. Elle finit par se tenir les yeux ouverts de force avec ses doigts. Mais les paupières se moquaient bien de ces petits doigts-là, qui se relâchaient insensiblement. Alors elle se répéta à elle-même la fable que Lisbeth lui avait apprise le jour même et qui commençait ainsi. Maître Corbeau, sur un arbre perché. Son imagination vagabonde grimpait sur l'arbre à côté du corbeau et lui disait « Voyons, ne lâche pas ton fromage, faut-il être bête ?» Et elle n'arriva pas au bout de la phrase. Il lui semblait que le corbeau dansait une ronde folle avec le renard, et que le vent faisait beaucoup de bruit parmi les branches de l'arbre. Le bruit s'apaisait, s'apaisait, le renard devenait tout petit, le corbeau s'envolait, et Mademoiselle Aline dormait, chaudement bordée dans son petit lit. Mais comme l'avait dit le docteur, la petite était fort nerveuse. Le sommeil d'Aline était agité, plein de rêves. Elle rejetait ses couvertures, marmottait des mots sans suite, et n'arrivait pas au repos complet. Subitement, elle se dressa sur son séant, réveillée en sursaut. Elle avait, à travers son demi-sommeil, entendu du bruit, et elle ne dormait plus du tout maintenant. Cependant, il lui fallut quelque temps pour ressaisir ses idées, pour se rappeler pourquoi elle était si contente de se trouver réveillée ainsi au milieu de la nuit. Santa Claus, elle y était maintenant, elle allait donc le voir. Il devait bien être minuit, pensait-elle, et justement la lune, à travers les nuages, éclairait assez sa chambre pour qu'elle pût distinguer la grande cheminée. Ses yeux ne quittaient plus cette cheminée par où devait descendre le petit être fantasque qui lui apporterait des joujoux du royaume des fées. Son cœur battait bien fort. Elle était fière de se dire qu'elle serait seule à le voir. Elle entendait Lisbeth qui ronflait tout doucement à côté, mais elle avait un peu peur aussi. Il se faisait bien attendre. Il lui sembla qu'elle guettait ainsi la cheminée depuis longtemps, lorsque de nouveau un léger bruit frappa son oreille. Il lui sembla que le sang se figeait dans son petit cœur. Il allait venir. Mais non, il ne venait pas. Il s'était sûrement trompé de cheminée. Ça, c'était trop fort. Faire des cadeaux aux grandes personnes et l'oublier, elle. Sa chambre et celle de Lisbeth se trouvaient près du grand escalier, un peu loin de la chambre de sa mère. Aline attendit encore. Mais enfin, à bout de patience, convaincue qu'elle était là éveillée depuis 1 heure au moins,
tandis qu'il n'y avait pas 10 minutes, elle se jeta à bas de son lit, et avant de bien savoir ce qu'elle faisait, elle se trouva dans le corridor tout près du grand escalier en bois. Alors elle eut conscience que le bruit qui l'avait réveillée en sursaut, c'était justement le craquement du bois. Santa Claus était donc bien lourd. Et puis, un Santa Claus qui monte les escaliers au lieu de descendre par les cheminées, ce n'était plus le vrai Santa Claus. C'est égal. Elle irait à lui, elle le tirerait par son manteau couvert de neige, et elle lui dirait gentiment « Monsieur Santa Claus, ne m'oubliez pas, je vous en supplie. » Elle était si possédée de cette idée de tirer Santa Claus par son manteau qu'elle ne sentait pas le froid, et elle n'avait plus peur. Elle relevait sa longue chemise de nuit bien haut pour aller plus vite, et quoiqu'il fît obscur, elle n'hésita pas un instant. Elle allait du côté où elle avait entendu le bruit des pas et se trouva auprès de la chambre de son père malade. Cette chambre avait deux portes. L'une communiquait avec un corridor au bout duquel était l'appartement de Madame Chabriard. L'autre donnait sur un grand vestibule où aboutissait l'escalier monumental. Celle-ci était lourdement drapée de grands rideaux doublés, car le malade avait peur du moindre courant d'air. Cette porte-ci était entr'ouverte, et Aline se glissa par l'ouverture et se blottit derrière la lourde draperie qui la cachait complètement. Seulement, entre les deux rideaux se trouvait un petit jour qui lui permettrait d'apercevoir Santa Claus. Maintenant que le moment était venu, tirer le petit homme par le manteau ne lui semblait plus chose toute simple. Elle le regarderait d'abord pour voir s'il était de bonne humeur, puis elle s'avancerait hardiment. Aline ne vit pas Santa Claus. Voici ce qu'elle vit, sans comprendre toutefois. La chambre était faiblement éclairée. À la porte du corridor, Aline aperçut sa mère, et cependant l'enfant hésitait à la reconnaître. Elle ne semblait plus la même. Elle avait ôté la toilette qu'elle portait au dîner, et elle était vêtue d'une robe de chambre en laine foncée qui ne faisait pas de bruit. À côté d'elle se trouvait le docteur. Cependant, Aline savait bien qu'il était parti, le docteur. Comment se trouvait-il là? Sur le lit, tout au fond de la pièce, son père était étendu, il semblait dormir. Madame Chabriard et le docteur restaient immobiles, regardant le dormeur. La jeune femme se tordait les mains, elle était horriblement pâle. « Ah, dit à mi-voix le docteur, tu ne m'aimes plus, ne pas t'aimer. » Et folle, elle se laissa tomber dans les bras qui s'ouvraient pour la recevoir. Le peu de bruit qu'ils firent dans ce mouvement brusque réveilla le dormeur. Il se souleva un peu et les regarda, sans un mot, d'un regard terrible. Alors le docteur, tandis que la femme restait pétrifiée de terreur, n'hésita pas. Il courut au lit. D'un petit flacon qu'il tenait à la main, il versa du liquide sur un linge et en bâillonna le malade. Celui-ci se débattait, voulait crier. Une seule fois, un son rauque sortit de son gosier, assassin. Il arriva jusqu'à l'enfant qui voyait tout, incapable de bouger, incapable de crier, prise d'un tremblement nerveux, qui croyait être le jouet d'un cauchemar atroce, ne comprenant pas ce qui se passait. Seulement une odeur étrange remplissait la chambre, et cette odeur semblait lui prendre la tête, lui donner un peu mal au cœur aussi. « L'autre flacon, » murmura le docteur. Madame Chabrière s'avança, lui donna ce qu'il demandait. Le malade dormait de nouveau. Aline comprit vaguement que sans doute son père avait été repris de sa crise, qu'on avait été appelé le docteur et que celui-ci le faisait dormir. Il le faisait dormir, en effet. Aline avait la tête prise de plus en plus. Très vaguement, elle vit qu'on arrangeait l'oreiller de son père, qu'on disposait tout pour le laisser bien tranquille. Le docteur mit le flacon renversé sur la table de nuit où se trouvait une veilleuse. Tout se faisait sans bruit, sans une parole non plus. Seulement la mère d'Aline était blanche comme la dentelle roulée autour de son cou. Vaguement aussi, Aline se dit que si on la trouvait là, nu-pied, on la gronderait. Elle grelottait maintenant. Elle avait chaud et froid en même temps. Elle ne pensait plus du tout à Santa Claus. Son petit lit l'attirait, lui faisait envie. Sans bien savoir comment cela s'était fait, elle se retrouva sous ses couvertures, cherchant à se réchauffer et n'y arrivant pas. Les idées les plus biscornues lui traversaient la tête. Le corbeau de sa fable devenait énorme. De ses ailes noires, il la frôlait et elle avait très peur. Elle aurait voulu appeler Lisbeth, qu'elle savait là, tout près, mais elle n'osait pas. Le corbeau, Santa Claus, le docteur, son père qui dormait, tout cela se mêlait dans son pauvre petit cerveau et lui donnait bien mal à la tête. Elle gémissait sans que Lisbeth l'entendît. Elle finit par dormir à peu près, puis elle se réveilla en jetant un grand cri. Aline était très malade. Et dehors, dans la neige épaisse, vaguement éclairée par la lune voilée, il se trouvait une empreinte de pas d'homme. Ses pas allaient de la porte du château vers la route forestière. Mais la neige tombait encore en gros flocons. Peu à peu, la trace des pas s'effaça sous la couche nouvelle de neige. Bientôt, la trace des pas avait disparu.